BW. Vue d'Allemagne.
Dieser Krieg ist Putins Krieg.
Cette guerre est la guerre de Poutine. Les mots sont d'Olaf Scholz devant le Bundestag allemand dimanche dernier. Une guerre en Ukraine sans précédent qui provoque une onde de choc en Allemagne. Changement de cap sans précédent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale annoncé par le chancelier dans la politique militaire, de défense et diplomatique allemande. L'armée va être modernisée. On analyse tout cela ensemble dans un instant. Et puis alors que les scientifiques du GIEC alertent cette semaine et de façon très inquiétante une nouvelle fois sur les effets du changement climatique, nous serons en Espagne en seconde partie de ce magazine. Le pays est déjà menacé par la montée des eaux qui a commencé. Vous écoutez Vue d'Allemagne, willkommen, soyez les bienvenus.
Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor.
Nous vivons un changement d'époque et le monde d'après ne sera plus celui d'avant. Discours du chancelier allemand Olaf Scholz qualifié d'historique en Allemagne par une bonne partie de la presse. C'était dimanche dernier, le 27 février, discours d'une demi-heure devant les députés du Bundestag. Un discours que personne n'aurait imaginé il y a quelques jours encore. Et un changement de cap donc annoncé, je vous le disais, dans la politique militaire allemande par le chancelier.
Il est clair que nous devons investir beaucoup plus dans la sécurité de notre pays pour protéger notre liberté et notre démocratie.
Wir werden dafür ein Sondervermögen Bundeswehr einrichten.
Nous allons pour cela mettre en place un fonds spécial pour la Bundeswehr. Le budget fédéral 2022 dotera cet actif spécial de 100 milliards d'euros. Nous utiliserons cet argent pour les projets nécessaires et les dépenses militaires.
Avec ce premier changement donc très applaudi que vous venez d'entendre, annoncé par le chancelier, donc 100 milliards d'euros pour l'armée allemande, la Bundeswehr, une mesure prise après l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe. Mesure que le nouveau gouvernement n'avait pas prévue pour les prochaines années à sa prise de fonction en décembre dernier. Elle doit servir, cette mesure, à moderniser l'armée allemande. Une armée minée par les problèmes d'équipement et dont les effectifs ont largement baissé depuis les années 90, passant de 500 000 à 200 000 personnes. Une surprise, car le SPD, le parti social-démocrate d'Olaf Scholz, était très réticent jusqu'ici à investir dans la défense. Même chose du côté des Verts au gouvernement aujourd'hui, qui était longtemps anti-militariste. C'est un tabou qui tombe dans le pays, souligne Ronja Kemping, chercheur senior à l'Institut allemand pour les questions de sécurité et de défense en Allemagne.
C'est un montant que j'aurais jamais cru que l'Allemagne ou un gouvernement allemand sera prête à annoncer pour l'armement de la Bundeswehr. On n'a jamais vu un tel montant d'argent consacré à l'armement de la Bundeswehr. On n'a jamais vu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Olaf Scholz a aussi annoncé que l'Allemagne allait désormais investir chaque année plus de 2% de son produit intérieur brut dans sa défense. C'est au-delà donc du taux de 2% réclamé par l'OTAN que l'Allemagne ne respectait pas jusqu'ici. Un changement majeur, là encore. Et ce n'est pas fini. Samedi dernier, l'Allemagne annonçait qu'elle allait livrer des armes à l'Ukraine alors que le pays refusait de telles livraisons depuis 1945 dans les zones de guerre.
La conviction allemande a toujours été on ne donne pas des armes, on ne vend pas des armes dans des zones de crise. Parce qu'on ne veut pas que nos armes donc, contribuent à plus de violence.
Et, en Ukraine et ailleurs.
Principe, ouais, voilà. Et ailleurs, partout dans le monde, jamais dans les zones de conflit, l'Allemagne a donc donné ou vendu des armes létales.
Olaf Scholz a aussi parlé du développement de la défense européenne, sujet sur lequel l'Allemagne traînait des pieds jusqu'ici. Il parle désormais de priorité absolue en évoquant la construction d'avions et de chars de combat avec les partenaires européens et en particulier la France. Pour tout cela, l'Allemagne est même prête à augmenter sa dette, alors que le pays faisait office de champion de la rigueur budgétaire jusqu'il y a peu encore. Alors, il faudra voir comment tout cela évolue avec le temps, mais l'engagement de l'Allemagne annoncé vis-à-vis de l'étranger est un vrai changement de cap, souligne l'historien et directeur du centre de recherche franco-allemand Marc Bloch de Berlin, Jacob Vögel. Il rappelle que l'Allemagne s'était déjà engagée à l'étranger sur le sol européen pendant la guerre au Kosovo en 1999, mais que cela faisait exception et que c'est donc bien une rupture qui se dessine désormais.
Il y a à la fois une culture d'être plutôt réservé sur une utilisation des troupes de la Bundeswehr ailleurs. On a bien vu ça quand la France a commencé les opérations en Afrique notamment, et quand ils ont demandé un soutien militaire de la part des autres alliés européens, que l'Allemagne a toujours été plutôt réticente et a réagi avec lenteur à ces demandes d'un engagement plus net aussi de l'Allemagne à côté de ses alliés.
L'Allemagne prend aussi ses distances avec la Russie. Elle a suspendu la certification et donc la mise en service du gazoduc Nord Stream 2 qui relie Allemagne et Russie pour livrer du gaz. Accepter aussi que le pays soit exclu de la plateforme interbancaire SWIFT.
C'est vraiment un changement de la politique envers la Russie, qui a été quand même considérée comme une des puissantes qui ont contribué à renverser les régimes de Hitler pendant la Deuxième Guerre mondiale, et donc qui était toujours, malgré la confrontation de la guerre froide, un peu tenue à l'écart, où on cherchait à éviter donc la confrontation trop directe.
Alors, est-ce que c'est la fin totale de l'Ostpolitik, la politique d'ouverture de l'Allemagne vers l'Est et la Russie? Jacob Vögel reste prudent.
Il faut attendre pour cela, pour dire si c'est la fin totale. Mais c'est sans doute position tout à fait nouvelle face à l'agression de la Russie en Ukraine. Et aussi, un peu une perte des illusions que pas mal de gens ont eues encore ici en Allemagne face aux intentions de Vladimir Poutine et de ses militaires russes. On avait bien vu en Tchétchénie ou ailleurs, et 2014, l'annexion de la Crimée, on était aussi un exemple assez flagrant, que Poutine était prêt à utiliser les armes de manière massive aussi pour son projet qu'on peut qualifier aussi d'impérial ou impérialiste. Mais on avait pensé qu'il y avait des limites, qu'il fera tout pour infliger, disons, une défaite politique aux Ukrainiennes et donc faire peur avec les forces armées. Mais on n'aurait pas pensé qu'il déclencherait la guerre quasi totale qui est actuellement en cours en Ukraine.
Face à tout cela, l'Allemagne change donc de cap. Changement soutenu visiblement dans l'opinion et politiquement de tous côtés. Vous avez entendu les nombreux applaudissements du chancelier un peu plus tôt par les députés lors du discours dimanche dernier. Des changements qui pourraient aussi avoir des répercussions sur la politique énergétique allemande à l'avenir. On parlait de la dépendance au gaz russe dans cette émission il y a peu. Si Berlin veut désormais moins dépendre de la Russie pour son gaz, le pays devra trouver d'autres sources d'énergie et d'autres fournisseurs. Le ministre fédéral de l'économie et du climat, Robert Habeck, un écologiste, a même dit qu'il ne s'opposerait pas idéologiquement à une réflexion sur une éventuelle prolongation de la durée d'activité des centrales nucléaires. Leur arrêt est normalement prévu en fin d'année. Les tabous semblent décidément tomber les uns après les autres en Allemagne ces jours-ci.
DW.
Vue d'Allemagne, seconde partie, reportage. En début de semaine, les experts du GIEC alertaient une nouvelle fois. Le changement climatique a déjà entraîné des pertes irréversibles pour la nature. Et de continuer leurs propos, il pourrait, s'il n'est pas freiné, ce changement climatique, déclencher des réactions en chaîne aux effets potentiellement catastrophiques pour les espèces, dont l'homme. Des changements qui se remarquent déjà, d'ailleurs, en Espagne. La mer dévore le littoral catalan, comme à Saint-Louis au Sénégal ou dans l'Atlantique en France. Sous la pression du changement climatique, les scientifiques observent une régression significative de la côte là-bas. Cela se voit, les plages se réduisent comme peau de chagrin. Notre correspondant en Espagne, Henri de Laguerry, s'est rendu justement dans le delta de l'Ebre, en Catalogne et à Barcelone.
C'est l'un des plus grands deltas de la Méditerranée avec la Camargue en France. 320 km² de marais, de rizières, de végétation et de bancs de sable composent le delta de l'Èbre au sud de la Catalogne. Entre la faune et la flore, le parc naturel accueille plusieurs centaines d'espèces protégées. Mais cette zone humide se réduit à vue d'œil. Goumer González, la cinquantaine, est bien placée pour le savoir. Conducteur d'un bateau pour touristes, il navigue dans le delta tous les jours depuis 30 ans.
C'est triste de perdre cette merveille. D'ici 5 ans, toute la bande de terre que vous voyez ici aura disparu, tout simplement parce qu'elle recule chaque jour. Vous voyez cette petite maison-là ? Il y a 2 ans, elle était à 100 mètres de l'eau. D'ici un mois ou un mois et demi, elle sera emportée.
Ici, la montée des eaux se conjugue avec un enfoncement du delta. Les 62 barrages hydrauliques construits dans les années 60 et 70 et tout au long du parcours de l'Èbre, le plus grand fleuve de la péninsule ibérique, freinent l'arrivée des sédiments vers le delta, explique Carla Sibanyes, la scientifique spécialiste du changement climatique.
Il nous manque du sable, ce qu'on a ici apparemment en abondance, mais en fait, il ne nous en arrive quasiment pas. Le fleuve n'apporte plus le sable nécessaire et la mer emporte tout. Le sable, c'est ce qu'il y a de plus important pour l'avenir du delta.
Lieu incontournable du delta, la plage du Trabucador mesure 5 km de long et seulement 200 mètres de large. Ce long bras de sable est souvent envahi par les eaux. Il risque un jour de disparaître.
Le niveau de l'eau monte de 4 mm par an dans le monde et ici aussi, c'est énorme. Et ça s'accélère, ce sera bientôt 1 cm chaque année. Et ça ne va pas s'arranger même si on respecte les accords de Glasgow de la COP26. Je décris tout ça comme un tsunami au ralenti.
Je le décris comme un tsunami à caméra lente.
Et en Catalogne, les catastrophes naturelles se multiplient. Elles emportent avec elles des portions entières de plages. Tout le monde se souvient encore de cette tempête Gloria début 2020 qui a laissé une facture de 75 millions d'euros. Les dommages sont importants à chaque tempête car 60% de la côte est construite. Et de plus en plus de maisons et de bâtiments sont en danger. Il va falloir un jour déplacer des infrastructures comme la ligne de chemin de fer qui relie Barcelone à la Costa Brava. La montée des eaux est donc aussi une menace pour l'économie d'une région qui vit en grande partie du tourisme de plage. Or, d'ici 15 ans, près de la moitié de ces plages ne seront plus suffisamment grandes pour accueillir du public. Et des emplois sont menacés, comme celui de Santiago Fuchs. Il dirige une école de voile à Montgat, près de Barcelone. Chez lui, la plage a perdu la moitié de sa surface en 10 ans. Résultat, il devra sans doute déplacer, voire fermer son école. Il n'y a plus de place déjà pour mettre les voiliers à l'abri. À chaque tempête, il faut donc les accrocher.
Un jour, on va devoir déménager parce qu'on n'a plus de place sur le littoral. Bientôt, les écoles de voile vont avoir un gros problème. Parce qu'avec les prix qu'on a en bord de mer, ce sera très difficile de maintenir une école de voile.
Chaque année, les autorités dépensent des fortunes pour faire venir du sable et tenter de maintenir la plage. Mais Chavisant, employé dans la même école de voile, ne se fait pas beaucoup d'illusions.
Oui, ils mettent des rustines. On les voit parfois rajouter du sable. Ils le font venir du port du Masnou, pas loin, pour le mettre ici, mais chaque année, ça s'en va. Donc bon, je ne sais pas.
Et à Barcelone, on construit régulièrement de nouvelles digues pour faire face aux tempêtes et à la montée des eaux. Mais pour les experts, ces solutions ne sont pas viables à long terme. Si on ne parvient pas à enrayer le réchauffement climatique, ils estiment qu'il faudra sans doute un jour renoncer à vivre au bord de la Méditerranée. Barcelone, Henri de la Guérie pour la Deutsche Welle.
Et merci Henri de la Guérie pour ce reportage. C'est avec cela qu'on referme Vue d'Allemagne pour cette semaine. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Jacob Feugel et à Ronia Kemping pour leurs éclaircissements pour la première partie de ce magazine. Vous retrouverez Anne Le Touzé pour le prochain numéro la semaine prochaine. Et d'ici là, alles Gute, bonne semaine, tschüss.